Radio Classique, les spécialistes.
Alors, les spécialistes sont ce matin Jérôme Chapuis, donc de la Croix, Dimitri Pavlenko, que je ne vous présente pas, et il y a également Régis Le Sommier de Paris Match à E3. Je dis bonjour ou rebonjour.
Bonjour,
bon, Dimitri,
bonjour,
salut.
Bonjour Bernard.
Jérôme Chapuis est à l'ouverture ce matin. Jérôme, rédacteur en chef à la Croix. Il n'y a pas que le virus dans l'actualité et dans les préoccupations du gouvernement. Il y en a une autre très grande en cette rentrée. Elle est d'ailleurs portée malheureusement par ce qui se passe tous les jours dans les rues de France, c'est la sécurité.
Oui, le thème figure en tête des priorités de l'exécutif, la sécurité du quotidien. Ce sera bien à l'ordre du jour du séminaire du gouvernement du 9 septembre, sans qu'on sache pour le moment quelles mesures il va en sortir. Il s'agit d'abord de répondre à cette inquiétude des Français. Il y a aussi, bien sûr, sur ce sujet ultra sensible, une dimension politique. À l'Élysée, on veut absolument, absolument couper court aux critiques qui se multiplient dans l'opposition.
Alors, il faut dire que l'opposition, elle y va vraiment pas de main morte, à droite notamment.
Oui, il faut toujours se méfier de ses amis. Xavier Bertrand, pourtant proche du ministre de l'Intérieur, a été sans pitié toute la journée d'hier. D'abord dans une interview au Figaro, nous venons de vivre un été orange mécanique. Ensuite sur BFM TV, en mettant en garde contre la fin de l'État et de la République. Mais il ne faut pas s'y tromper, en dénonçant l'ultra-violence gratuite, c'est moins Gérald Darmanin qu'il vise qu'Emmanuel Macron, évidemment. D'ailleurs, Xavier Bertrand ajoute, quand on n'a jamais été élu local, ce qui est le cas du président de la République, il est impossible de se rendre vraiment compte de ce que vivent nos concitoyens.
Selon vous, Jérôme Chapuis, est-ce que la sécurité est vraiment le point faible de Monsieur Macron?
En tout cas, ça l'est selon la droite. Il n'est pas à l'aise sur ce sujet, il n'a pas les idées claires, ce n'est pas son ADN, c'est ce que passe son temps à répéter la droite. De fait, Emmanuel Macron a pas toujours eu la main heureuse sur ce sujet, notamment dans le choix de ses deux ministres de l'Intérieur qui ont débuté le quinquennat, Gérard Collomb, puis Christophe Castaner. Le premier l'a lâché en race campagne pour partir à Lyon, le deuxième a jamais réussi trop à s'imposer. Avec le troisième, Gérald Darmanin, pourtant biberonné à l'école Sarkozy, ça n'est pas encore gagné.
Mais pourquoi dites-vous ça? Moi, je lis plutôt l'inverse.
Alors, je passe sur l'affaire qui a parasité ses débuts, l'enquête déclenchée suite à des accusations de viol. C'est pas fini. Mais même sans ça, la situation ne serait pas simple. Il y a eu des violences pendant tout l'été, vous y faisiez allusion. L'agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne, encore une agression avant-hier en région parisienne, un gendarme tué lors d'un contrôle routier, débordement aussi la semaine dernière après le match du PSG. Il n'y a pas de lien entre tout ça, mais comme on dit, il y a un climat. Pas de lien, mais ça oblige Gérald Darmanin à démontrer qu'il ne se contente pas de commenter. Depuis qu'il a été nommé, il est hyper présent sur les réseaux sociaux. Il réagit, vous allez voir, systématiquement, dès qu'il y a des violences. Il dénonce régulièrement l'ensauvagement de la société. Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur ce mot. Ça n'a pas échappé à ses anciens camarades de LR qui commencent à l'accuser de parler beaucoup, mais d'agir peu.
Et face à cette critique, qu'est-ce que comptent faire messieurs Darmanin et Macron?
Alors, agir, justement, bien sûr, mais aussi le faire savoir. Il y a une bataille d'image en ce moment. Vous l'avez sûrement vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé avant-hier soir à Grenoble, où les habitants d'un quartier ont vu débarquer 50 policiers, toute une compagnie de gendarmes mobiles, en réponse à des trafiquants de drogue qui avaient pavané, fait circuler des vidéos où on les voyait armés jusqu'aux dents, se livrer à leur commerce. Gérald Darmanin a pris soin d'ailleurs en direct de préciser sur Twitter que les forces de l'ordre agissaient sur son instruction. Mais ça aussi, ça a ses limites. À Grenoble, le bilan est très mince. Il y a eu une cinquantaine de contrôles, aucune saisie, aucune arrestation. Donc il en faudra plus. Ça pourrait passer par un tour de vis en matière pénale. Mais là, Emmanuel Macron risque de se heurter à un double problème. Il y a sa majorité qui est très frileuse sur ces sujets. Et puis un autre, c'est le ministre de la Justice qui est un novice. C'est pourtant sur lui, novice en politique, que repose la responsabilité d'un chantier clé. L'efficacité de la chaîne pénale, l'exécution réelle des peines, ce qui est vraiment stratégique sur ce sujet.
Et ça, c'est le domaine d'Éric Dupond-Moretti, bien sûr, le nouveau garde des Sceaux. Merci beaucoup, Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix, Dimitri Pavlenko. On a vu la sécurité. L'autre grand sujet d'inquiétude de la rentrée, c'est assurément globalement la reprise économique, mais spécifiquement le chômage, et en particulier le chômage des jeunes. 750 000 jeunes vont se mettre à la recherche dans quelques jours d'un premier emploi. Ils ont eu un diplôme au mois de juin ou au mois de juillet, ils cherchent du boulot. Les mauvais esprits, les cyniques diront que les entreprises ont vraiment d'autres chats à fouetter en ce moment que de se préoccuper de leur sort. Ils auraient tort, parce que à l'université d'été au MEDEF hier, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, a eu des mots très très fort pour les jeunes. Mieux que ça même, il a pris des engagements.
Oui, c'est très intéressant ce qui s'est dit hier à la REF, la Renaissance des entreprises de France, nom de baptême 2020 de l'université d'été du MEDEF, où évidemment on commente beaucoup la rentrée économique et sociale. Les patrons, ils ont quand même bien identifié une chose, c'est que le danger sur le front de l'emploi, ça va pas être tant les fameux plans sociaux qui sont mis en place par les entreprises du fait de la crise, non, c'est la non-embauche des jeunes. C'est l'expression qu'a employée hier Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF. Alors, il y a ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, effectivement, ceux qui ont fini leurs études, mais il y a aussi ceux qui sont déjà là, qui voient l'horizon se boucher. Les 15-24 ans, structurellement, ça fait 15 ans qu'ils sont les plus touchés par le chômage à des niveaux qui oscillent entre 20 et 25% quand même de taux de chômage.
Plus que la moyenne.
Ah oui, c'est quand même colossal. Mais là, avec la crise, la situation est quand même particulièrement inquiétante. Ce qui, en fait, place l'entreprise face à ses responsabilités sociales. Et donc, ce qu'on a entendu au MEDEF, c'est qu'elle n'allait pas les fuir, en fait, tout simplement. Concrètement, qu'a annoncé le MEDEF? Eh bien, qu'il s'engageait à avoir autant d'alternants recrutés sur la rentrée 2020 qu'il n'en avait eu l'année dernière, en 2019, où les choses allaient quand même mieux. Selon Geoffroy Roux-de-Bézieux, je cite, c'est presque un devoir civique et moral. On a beaucoup fait pour nous aider pendant la crise. C'est à nous, les entreprises, de renvoyer l'ascenseur aux jeunes. Voilà ce qu'il a dit.
Alors, ce sont de très belles preuves de bonne volonté de la part des patrons, ça je veux bien Dimitri, mais c'est mon boulot, c'est de faire peut-être du mauvais esprit. Est-ce qu'il n'y a pas des arrière-pensées de la part du MEDEF derrière ces merveilleux engagements?
Alors oui, sans doute un petit peu, en tout cas sur le plan de l'image, évidemment, ça coûte rien et c'est plutôt, ça peut rapporter gros de dire qu'on a sauvé l'emploi des jeunes. En tout cas, c'est que le gouvernement, lui, il a tout fait pour que le MEDEF tienne ses engagements en termes de moyens sonnants et trébuchants. Je vous rappelle qu'il y a un dispositif qui a été annoncé au début de l'été, qui est entré en vigueur mardi, le 25 août, 5 000 euros pour une entreprise qui embauche un apprenti mineur, ça n'est pas rien. Ça monte quand même jusqu'à 8 000 euros pour un apprenti majeur jusqu'à 26 ans et pour tous les contrats qui vont être signés jusqu'à la fin février prochain. C'est-à-dire que même si l'alternant, il a du mal à trouver sa boîte, il ne le fait pas avant octobre, novembre, décembre, parce que c'est ce qui risque de se produire, ils ne seront pas tous placés avant d'ici fin septembre, eh bien, les entreprises pourront bénéficier de ce dispositif qui est quand même plutôt encourageant. Dans la même veine, on a Bruno Le Maire qui appelait hier les entreprises du bâtiment à préférer l'embauche des jeunes plutôt que les travailleurs détachés. Ou encore, vous avez les banques qui viennent d'assouplir les prêts pour les étudiants. Chaque année, c'est quand même 300 000 jeunes qui vont voir leur banque pour lui demander un prêt pour financer leurs études et des prêts qui peuvent monter quand même jusqu'à 120 000 euros. Rendez-vous compte, vous commencez votre carrière dans le monde du travail avec 120 000 euros de dette sur les épaules. Autant vous dire que vous n'avez pas trop le choix, il faut tout de suite trouver un emploi. Évidemment, pour les banques, là aussi, c'est pas totalement désintéressé, parce que le prêt étudiant, on sait que c'est un excellent produit d'appel pour séduire les jeunes. Mais bon, on sent quand même que, globalement, de tout ce qui s'est dit, ce que j'ai entendu hier à la REF, c'est que les entreprises, elles se sentent une responsabilité nouvelle vis-à-vis des jeunes. Et ça tombe bien parce que eux, les jeunes aussi, ils ont des exigences vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de leurs employeurs. Beaucoup de jeunes souhaitent que l'entreprise aujourd'hui, elle soit pas seulement là pour faire du profit, mais aussi pour contribuer à l'intérêt général. Donc, il y a une convergence de tout ça. L'État, les entreprises, les jeunes, finalement, tout le monde est d'accord pour sauver la jeunesse et ça tombe plutôt bien.
Bon, tout n'est peut-être pas pour le mieux dans le meilleur des mondes,
bien sûr,
mais
Bernard.
On y tend, Dimitri Pavlenko.
Écoutez, il faut être optimiste. Moi, j'ai entendu les patrons hier, ils disent, il faut être optimiste, c'est important l'état d'esprit.
Régis Le Sommier est-il optimiste? Il est directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. En tout cas, il est bronzé. Il faut pas croire qu'il a bronzé sur la Riviera. Il a bronzé à Kaboul, imaginez-vous, puisqu'il revient d'Afghanistan. Il est allé rencontrer ses amis les talibans. Et tout ça, c'est dans Match cette semaine. Et notamment, Régis Le Sommier, vous êtes allé dans la province de Gore, au centre du pays, l'Afghanistan. Et vous avez, vous racontez dans Match le destin d'une jeune fille de 15 ans. Parlez-nous-en, s'il vous plaît.
Alors, j'ai pris cette histoire m'a beaucoup ému et donc c'est pour ça que j'ai souhaité rencontrer cette jeune fille. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est aujourd'hui en Afghanistan, une sorte de tournant. Ça fait bientôt 20 ans que la présence américaine, que les États-Unis ont fait chuter les talibans. Et puis on a envie de se dire. Tout ça pour ça, c'est-à-dire que 20 ans après, les États-Unis sont aujourd'hui en train de négocier avec les mêmes qu'ils avaient chassés du pouvoir. Donc, constat d'échec, des milliards de dollars ont été investis dans cette guerre, il y a eu un coût humain faramineux. Voilà, et puis, donc les talibans reviennent, ils reviennent en force. Ils sont d'ailleurs autour de Kaboul, il y a un petit parfum de Saïgon en 1975, c'est-à-dire que au niveau gouvernemental, une certaine frilosité par rapport à ce qui pourrait se passer si les talibans conquièrent Kaboul. Et j'ai Et il y a eu cette histoire de cette fille, cette jeune fille de 15 ans, qui, en pleine nuit, en fait, les talibans sont venus, son père était chef d'une milice locale anti-talibane, donc pro-gouvernementale. Les talibans sont venus, ils ont sorti son père de la maison, le père est sorti, ils l'ont exécuté, ils ont exécuté sa mère, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une kalachnikov à 15 ans, et elle a tué ces deux talibans. Aujourd'hui, elle est sous protection gouvernementale, elle est menacée, évidemment, mais c'est un symbole incroyable d'une femme, d'une jeune fille qui, en l'occurrence, décide de tuer les meurtriers de ses parents. En Afghanistan, c'est exceptionnel. Les droits de la femme n'existent pas. Il y a eu beau avoir 20 ans d'occupation américaine, quelques progrès dans l'éducation, mais on sait bien que tout ça, si les talibans arrivent au pouvoir, eh bien, tout ça va disparaître. Alors, nous sommes aussi allés voir les talibans. Nous sommes allés leur parler pour savoir s'ils avaient changé, pour savoir s'ils étaient, s'il y avait des talibans, une nouvelle génération. Alors, ils ont un discours qui est effectivement plus modéré. Et puis, ils ont une composante intéressante, c'est-à-dire que les talibans sont riches. On ne peut pas imaginer comme ça qu'on dit qu'ils vivent dans des montagnes, etc. Ils sont arriérés, etc. Certes, mais ils contrôlent à peu près 60% du pays. Ils contrôlent notamment des mines. Ils ont beaucoup de richesses. Et du coup, ils peuvent payer leurs combattants. Ce qui fait qu'ils payent des étudiants qui, à Kaboul, n'ont pas de travail, qui reviennent dans leur village et puis qui deviennent talibans parce qu'il y a une solde. Donc, c'est intéressant parce que cette nouvelle génération, elle est extrêmement connectée, notamment ils ont tous leurs smartphones et ils sont tous sur les réseaux. Alors, évidemment, il y a un jeu de surveillance avec les drones gouvernementaux, ouais, etc. Et il y a beaucoup de talibans qui meurent justement dronés. Il y a un jeu très très mortel. Mais il y a effectivement une nouvelle génération. Alors, est-ce qu'une fois au pouvoir, si, puisque visiblement c'est absolument inéluctable, les talibans changeront-ils, feront-ils autre chose? Je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, ils le promettent. Voilà, mais cette jeune fille, en tout cas, si eux arrivent au pouvoir, elle n'a aucun avenir dans ce pays. Il faudra qu'elle quitte le pays. Voilà.
Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Donc, ce reportage est à lire dans Match cette semaine. C'est bien
absolument
ça.
Absolument.
Vous auriez dû me l'apporter, Régis. Je vous en veux beaucoup. Néanmoins,
il n'y en avait plus.
7h51. 7h51. Merci donc aux trois spécialistes, Dimitri Pavlenko, Le Sommier et Jérôme Chapuis. Je vous souhaite à tous trois un bon week-end. 7h51 sur Radio Classique. Blondin, Antoine, il est au rapport dans 30 secondes sur cette antenne. À la veille du plus bizarre Tour de France de l'histoire. C'est évidemment dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Et puis David Barou, des Échos, va enchaîner avec son décryptage consacré à la grande boucle. Mais côté finance, attention, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à la clé.